Réplique à la recherche de George Eliot avec Mona Ouzouf. Proust disait ne pouvoir lire deux pages d'elle sans pleurer. Les critiques subtils et influents qu'étaient Ferdinand Brunetière, Charles Dubos ou encore Albert Thibaudet lui ont consacré de très belles pages. Mais, comme le constate Mona Ouzouf, dans l'introduction du livre qu'elle lui consacre, ses voix louangeuses se sont tues. George Eliot n'est plus guère lu en France, sinon par les spécialistes de littérature anglaise. Et beaucoup des amis de Mona Ouzouf, grands lecteurs pourtant, parmi lesquels une très fine romancière, lui demandaient perplexe, après s'être enquis de son travail, « Mais qu'est-ce qu'il a écrit au juste, ce Georges ?» Je savais, pour ma part, que George Eliot était une femme, mais son œuvre me demeurait inconnue, et je dois à Mona Ouzouf d'avoir comblé partiellement mon ignorance en lisant coup sur coup cet été Daniel de Ronda et cet automne Middlemarch. Je suis revenu ébloui de ce voyage au long cours comme du magnifique essai de Mona Ouzouf. Et je voudrais aujourd'hui communiquer cet éblouissement aux auditeurs. Mais commençons par sortir l'auteur elle-même de la trappe où elle est tombée. Qui était George Eliot et quelle fut sa vie, Mona Ouzouf ?
La trappe où elle est tombée est surtout une trappe française. Mais elle a connu aussi un moment de désamour ou de désaffection en Angleterre, mais amplement réparée depuis la Seconde Guerre mondiale, où elle a des spécialistes et puis des lecteurs fervents. En France, il s'est passé quelque chose de très étonnant, dont d'ailleurs Albert Thibaudet s'étonnait entre les deux guerres. Il n'y a plus nulle part, disait-il, d'Eliotiste. Alors pourquoi ? Je réponds d'abord à cette question, probablement pour une raison que vient de développer Zadie Smith, très récemment, qui a dit « Voilà, moi j'ai été nourri de Dickens et d'Eliot, mais ces gros romans touffus paraissent ringards aux Français. » Probablement par un attachement des Français à la forme, qui leur semble négligée dans cette abondance romanesque. Bref, la femme et l'œuvre méritent pourtant infiniment qu'on s'attache à l'une et à l'autre. La femme, pourquoi ? Parce que tout semblait destiner George Eliot à une existence tout à fait conventionnelle. Parce que c'était une jeune fille sérieuse, intense, intensément attachée à sa famille, à ses entours, au paysage de son enfance qu'elle n'oubliera plus jamais. Et rien ne semblait présager les deux ruptures qui allaient fendre cette vie. La première rupture survient très tôt, vers ses 19 ou 20 ans, lorsqu'elle s'aperçoit que la foi évangélique qui a été la sienne et qui a été très intense est en train de disparaître dans sa lecture critique des textes sacrés, qu'elle doit à son imprégnation allemande, de la culture allemande. Et elle se rend compte qu'elle ne pourra plus jamais croire ni en l'existence d'un Dieu, ni en l'immortalité de l'âme, et que donc elle ne peut plus, parce qu'elle est une femme honnête, une fille honnête, suivre son père à l'église.
Et c'est en quelle année, ça, à peu près ?
Ça, c'est quand elle a 20 ans. Elle
est... C'est-à-dire en 1839. 39, oui, d'accord.
Par là. Donc premier scandale, parce que évidemment le père en conclut que puisqu'elle ne va plus fréquenter l'église, elle ne trouvera plus à se marier et qu'elle jette l'opprobre sur la famille entière. On lui dépêche donc des ecclésiastiques en nombre pour la ramener à de meilleurs sentiments, mais rien n'y fait. Donc première rupture très, très douloureuse, à peu près raccommodée, mais tout de même très présente. Et puis deuxième rupture, la plus scandaleuse pour une société victorienne, après avoir eu quelques déboires amoureux, elle s'éprend à la Westminster Review, dont elle est devenue une collaboratrice, d'un des journalistes, un homme un peu improbable, tout à fait bohème, très laid, très cultivé, très amusant aussi. Quelqu'un qui l'a fait rire probablement pour la première fois dans sa vie sacrificielle jusque-là. Donc elle s'en éprend et le malheureux ne peut pas divorcer d'une femme légitime qui vit tout près de là, dont il a eu 3 enfants, mais qui vient d'en faire un autre, elle en fera d'ailleurs d'autres après, avec son meilleur ami, circonstance aggravante. Et ce Lewis, bonne poire ou bonne pomme, comme on veut, a la générosité de reconnaître l'enfant adultérin comme le sien et de contribuer à son entretien, comme il le fera d'ailleurs pour les autres. Mais sa générosité lui coûte le fait de ne pas pouvoir divorcer. Donc, c'est un compagnonnage qu'elle va s'évertuer à présenter comme le vrai mariage, le mariage qu'elle avait appris à admirer en lisant Feuerbach, c'est-à-dire un contrat de confiance réciproque voulu par les deux protagonistes, et bref. Mais elle aura évidemment un mal fou à faire admettre cette situation irrégulière. Elle prie son éditeur d'en avertir ses proches quand elle fuit avec celui qu'elle aime en Allemagne. Cette fois-là, c'est en, je sais pas, j'ai oublié l'année, 1854, je crois. Elle a d'ailleurs, elle a dépassé la trentaine à l'époque. Et évidemment, la nouvelle fait scandale. Et elle, ce voyage qui est la période la plus heureuse de sa vie, elle le paie de l'ostracisme social.
Et notamment son frère, je crois, qui est particulièrement...
Le frère, elle ne le reverra jamais.
Oui, c'est ça.
Physiquement. Il écrira une dernière lettre, mais elle ne le reverra jamais. Donc, il y a un frère extrêmement rigide. Et d'autre part, les amis s'ingénient aussi à s'entre-écrire pour s'avertir qu'il ne faut surtout pas la recevoir. Parce que la recevoir, c'est jeter le discrédit sur toutes les femmes de la famille et même sur le sexe féminin en général. Donc, c'est une vie hachée par ces ruptures, alors que le tempérament d'Eliot est tout entier axé vers la continuité des existences.
Oui, mais alors, en même temps, c'est très étrange ce que vous dites, parce que l'une des raisons pour lesquelles on ne lit pas George Eliot aujourd'hui, c'est qu'elle a la réputation d'être un auteur qui fait la morale, d'être moralisatrice. Personnellement, je n'ai rien trouvé de tel en lisant Middlemarch, en tout cas. Mais surtout, voilà une femme accusée d'être moralisatrice par la rumeur, et qui a souffert dans sa vie de la réputation d'immoralité que lui faisait la société victorienne. C'est quand même...
Oui, mais c'est pas très étonnant, parce qu'elle a quand même théorisé le remplacement de la religion par la morale.
Oui.
Et de l'idée de devoir comme surplomb aux existences humaines. C'est pas du tout quelqu'un qui pense les existences humaines dans l'ordre de l'horizontalité, mais dans l'ordre de la verticalité. Il y a quelque chose qui n'est pas un dieu personnel, mais il y a quelque chose qui surplombe une existence étroite et qui est l'idée du devoir et des autres.
Oui, c'est l'idée du devoir, mais par exemple... un des personnages de Middlemarch, qui est un pasteur, Fairbrother, je crois.
Oui.
Un pasteur qui a toute l'affection de George Eliot parce que il n'est précisément pas rigide pour les autres, ni même pour lui. Mais il dit, à chaque fois qu'on me demande des histoires, j'en tire un sermon. Voilà. Il n'arrive pas, justement, à raconter des histoires. Or, on a l'impression qu'avec elle, c'est le contraire.
Oui.
Elle ne sermonne jamais, elle raconte des histoires, ces personnages ont tous quelque chose de singulier, ce que lui reconnaît Henry James d'ailleurs.
Bien sûr.
La littérature, dit-il, c'est le special case, oui. C'est le cas particulier. C'est vrai aussi pour George Eliot, dont les personnages ont toujours une sorte d'ambiguïté. Enfin, d'ambivalence. Ils ne sont pas complètement du
Bien
côté
sûr.
Du devoir. Ils sont tourmentés, ils sont tiraillés, et On ne sort pas de son livre avec, si j'ose dire, une morale de l'histoire. On ne peut pas enfermer ses romans dans un sermon.
C'est vrai. Mais j'ai une réponse à ça, peut-être, qui est le fait que chez elle, l'imagination est à la fois une qualité intellectuelle et une qualité morale.
Voilà.
Et ça, c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus profond chez George Eliot. L'imagination est une qualité intellectuelle, bien entendu, parce que elle restitue, pour chacun de nous, comment dire, l'ubiquité, alors qu'il ne l'a pas dans les faits, la connaissance d'être, dont nous n'aurons jamais la chance de faire la connaissance réelle, de villes que nous n'aurons jamais visitées. Donc l'imagination est une qualité intellectuelle essentielle, et qui pour elle, du reste, est absolument liée à la fréquentation des livres. Les personnages positifs chez elle sont tous les personnages qui ont lu.
Oui.
Donc, qualité, l'imagination, qualité intellectuelle et esthétique aussi, bien sûr, je l'oublie au passage. Mais qualité morale. Pourquoi ? Parce que l'imagination permet de se transporter dans l'intériorité de l'autre. C'est une fiction, mais c'est une fiction féconde. Et je crois que c'est ça qui passe, c'est exactement ça, le point qui vous gêne. Elle passe pour une prêcheuse.
Voilà.
Ce n'est pas une prêcheuse, voilà. Mais c'est une femme qui pense qu'il faut sortir les vies individuelles de leur étroitesse intellectuelle et morale.
Oui. Alors, ce que vous me dites m'évoque une autre écrivain anglaise. Celle-là, presque, qui a été notre contemporaine longtemps, Iris Murdoch. Parce qu'Iris Murdoch, dans ses écrits théoriques, fait une distinction, c'est-à-dire reprend à son compte l'opposition qui est contenue dans la langue anglaise de fancy et imagination. Il y a deux mots, dit-elle. Et fancy, c'est le fantasme, c'est-à-dire les romans qu'on se raconte. Et le moi est le centre. L'imagination, c'est l'inverse. C'est la capacité de sortir de soi pour aller vers les autres. Et d'ailleurs, elle dit que la qualité morale essentielle, elle en trouve la définition chez Simone Veil quand celle-ci parle de l'attention. Et l'attention, on ne peut l'avoir justement que par cette imagination qui nous transporte hors de nous-mêmes. Et je vais citer une phrase très belle de Middlemarch. Tous, sans exception, nous naissons dans l'hébétude morale en prenant le monde comme une mamelle pour nourrir la suprématie de notre moi. Et effectivement, par l'imagination d'abord, on peut casser ça, sortir de cette hébétude morale.
Oui, du reste, je suis très contente que vous citiez Iris Murdoch. Moi, c'est une de mes romancières préférées. Et il y a des choses, il y a une parenté en effet entre les deux, et ce qui illustre tout à fait votre propos, c'est la fonction. Est-ce qu'elle donne l'une et l'autre au roman une fonction consolante ? Eh bien, oui et non. Oui, d'une certaine manière, pour quelque chose qui leur est commun à toutes les deux. C'est qu'elles pensent toutes les deux qu'après avoir entraîné le lecteur dans la forêt des 1200 pages qu'ils viennent de consentir à parcourir avec elles. Donc, le lecteur leur fait ce cadeau. Ce serait dommage, dit-elle toutes les deux, de laisser ce lecteur sans nouvelles. Des héros. Comment finir de façon abrupte un roman sans penser à la déception, à la frustration du lecteur. Donc, il leur arrive à l'une et à l'autre, très souvent, de faire un codicille, où elles expliquent ce que sont devenus les héros. Mais, consolante jusqu'à quel point ? C'est là, justement, qu'on revient de fancy à imagination. Pas consolante au point d'imaginer aux héros une vie délivrée de tourments ou de soucis. Au contraire, d'une vie qui est de toute manière un peu résignée, un peu pacifiée. Et si on y réfléchit bien, les grands romans finissent dans cette vision un peu, comment dire, banalisée de l'existence. Songeons à Guerre et Paix et à Natacha, qui est la grâce même. La grâce juvénile dans notre souvenir, devenue une ménagère un peu popote, hein. Oui. Bon, qui est heureuse sans doute, mais voilà. Et c'est exactement la même chose dans Middlemarch. Dorothée fait un second mariage, un second mariage heureux, mais que les critiques ont considéré comme un mariage presque aussi désastreux que le premier. Ce qui montre à quel point les critiques peuvent se tromper.
Oui, les critiques se trompent, je crois. Mais la seule morale, moi, que je retiens, justement, dans Middlemarch, ce sont les dernières lignes. Et après, nous arrêterons à Middlemarch et je vous demanderai peut-être de nous résumer cette intrigue foisonnante, Mona Ouzouf. Mais c'est une profession de foi à la fois morale et esthétique parce que l'art du roman est impliqué dans ce qu'elle écrit. La prose du roman. La croissance du bien dans le monde dépend en partie d'actes qui n'ont rien d'historique. Et si les choses vont moins mal qu'elles ne le pourraient pour vous et moi, on le doit un peu au nombre d'êtres qui mènent fidèlement une vie cachée avant de reposer en des tombes délaissées.
Ah oui.
C'est la romancière des vies ordinaires.
Hein. Oui, ouais. Mais c'est la romancière de l'invisible bienfaisant.
Voilà, exactement. Oui, vous dites.
C'est quand même extraordinaire. Parce que Dorothée rêvait d'être quelque chose dans le monde.
Dorothée, donc, c'est l'héroïne de Middlemarch.
C'est l'héroïne principale de Middlemarch, qui fait un premier mariage désastreux, calamiteux, à cause de l'illusion juvénile, de l'imagination,
voilà.
Du fantasme, là.
Exactement.
Parce qu'elle croit qu'elle va épouser...
C'est Pascal.
Elle va épouser Pascal. Pascal était une des lectures favorites d'Eliot. Après avoir reçu le prix de français dans la pension anglaise où elle était, à 13 ans, elle reçoit les pensées de Pascal en prix de français. Et elle ne les oublie jamais. Je trouve ça aussi magnifique. Donc, notre Dorothée, notre héroïne, rencontre ce pasteur desséché, fort peu séduisant, mais elle s'imagine qu'elle va en effet épouser Pascal. Premier mariage, évidemment calamiteux. Et puis, elle en fait un second, qui d'ailleurs, là aussi, c'est une très profonde vision de l'amour, parce que l'amour entre le nouveau mari et cette Dorothée naît du codicille infamant que le premier mari a ajouté à son testament. Elle aura toute la fortune, sauf si elle épouse ce petit cousin qu'elle a rencontré. Bon. Donc, les critiques disent, lamentable, elle épouse un gamin qui est un personnage très flou, très incertain, une sorte de gravure de mode, etc. En quoi il faut un contresens complet? Parce qu'il ne voit pas une des vérités que George Eliot ne cesse de rappeler dans ses romans. Il y a des vérités. Une des vérités est l'argent, par exemple. Une des vérités aussi est le charme physique des êtres. Or, elle rencontre ce Will Ladislav comme une apparition printanière. C'est le printemps dans sa vie, alors que Casaubon était le crépuscule ou l'automne. Et voilà à quoi cède Dorothée. Mais est-ce que c'est tout à fait ordinaire de vivre avec qui on aime ? Est-ce que ça ne fait pas une définition assez satisfaisante du bonheur pour chacun de nous ?
Eh oui, bien sûr.
Donc, elle a le mérite de montrer qu'il y a des vies, en effet, qui n'ont pas d'éclat, mais qui rencontrent l'essentiel. Et l'essentiel pour Eliot, c'est la réciprocité. C'est la confiance et la réciprocité. Et donc, le second mariage, c'est un contresens absolu de dire qu'il est ordinaire. Et d'autant, et là je rejoins votre propos et la dernière phrase du livre, que les vies invisibles aux yeux de l'opinion peuvent avoir des conséquences extrêmement fécondes et bienfaisantes pour des êtres ignorés de tous. Mmh. Et du coup, le pasteur, on comprend la sympathie qu'elle a pour ce pasteur qui, bon, a probablement raté sa vie de sauveur des âmes, mais qui a sauvé autour de lui beaucoup de destins singuliers.
Oui, d'ailleurs ce pasteur sauve des destins singuliers, notamment celui d'un des grands personnages, des beaux personnages du roman, Fred, un homme un peu léger, désinvolte, mais qui est amoureux fou de Mary Garth, femme d'ailleurs qui n'est pas gâtée par la nature. On le dit tout le temps, elle n'est pas vraiment très jolie, mais elle a deux soupirants éperdus, ce Fred, qui lui a passé un anneau de parapluie en guise de fiançailles quand ils étaient enfants, et le pasteur, Le pasteur l'adore. Et en même temps, il se sacrifie quand il voit que cette Marie et ce Fred vont si bien ensemble, si j'ose dire. Là encore, il fait le bien, non pas par la rédemption des âmes, mais autour de lui, par le sacrifice qui est le sien.
Oui, et puis aussi, ce qui compte beaucoup dans les romans d'Eliot, par la parole bienfaisante. Et la parole, parce que oui. Toutes les conversions dans l'œuvre d'Eliot ne sont jamais des conversions où Dieu intervient. Ce sont des conversions qui sont dues à la réception d'une parole bienfaisante. Toutes, y compris, par exemple, la conversion éphémère, il est vrai, de la ravissante égoïste du roman de Rosamonde par Dorothée, par la noblesse d'âme de Dorothée. Ah
oui. Ça, je dois dire que c'est un épisode très beau. Cette Rosamonde, elle aussi se raconte l'histoire. Oui. Dans sa fantasy, dans les romans qu'elle se fait, elle est très belle, c'est la plus belle femme de Middlemarch. Eh ben, il faut qu'elle rencontre un inconnu. Et cet inconnu, c'est ce nouveau venu dans Middlemarch, qui est un médecin plein de projets, ambitieux et altruiste à la fois, parce qu'il veut servir en tant que médecin, et il y a beaucoup de choses à faire. Elle le rencontre, elle tombe amoureuse, lui veut se garder de l'amour, et en même temps, à un moment, ça se cristallise, parce que le sentant un peu fuyant, elle pleure, et les larmes le rendent lui amoureux, mais évidemment, il ne convient pas à Rosamonde, il sort de son roman, il a des ennuis, il n'est pas celui qu'elle attendait, il a fait des dettes, elle se retrouve pauvre avec lui, en plus il est l'objet d'un soupçon infamant, et elle trépigne comme une petite fille dont on a cassé le jouet. Donc elle est vraiment l'égoïsme incarné, et en même temps, elle rencontre cette Dorothée, en effet, qui connaît le médecin, et qui vient lui dire que tous les soupçons dont il est l'objet sont faux. Elle essaye de les réconcilier. Et cette Rosamonde égoïste est tellement émue par le geste de Dorothée qu'en effet, elle s'ouvre à quelque chose. La générosité de Dorothée est comme contagieuse. Oui. Et ça, c'est vraiment très étonnant. C'est très beau dans le livre. Justement, les personnages ne sont jamais enfermés dans la psychologie de départ.
Oui, et du reste, le personnage du médecin est une illustration magnifique, parce que c'est un personnage très très attachant, qui pour lequel la médecine est voilà une vocation, la vocation de guérir l'humanité souffrante ou d'aider à l'humanité souffrante, mais qui est resté sur le plan des comment dire de qui est resté très conventionnel et qui n'attend d'une femme que le repos du guerrier, d'une certaine manière.
C'est vrai. Mais il y a aussi autre chose dans Middlemarch qui m'a beaucoup frappé. C'est une définition de l'amour, et même de l'amitié. Une possible définition que je n'ai lue sous la plume d'aucun autre auteur. Et je voudrais vous lire deux citations à ce propos. Il arrive même à des mortels plus forts que Fred Vinci de situer la moitié de leur droiture dans l'esprit de l'être auquel ils sont le plus attachés. Le théâtre de toutes mes actions s'est effondré, déclara un haut personnage de l'Antiquité à la mort de son meilleur ami. Heureux ceux à qui est donné un théâtre où le public exige d'eux le meilleur. Et puis, plus loin dans le roman, presque à la fin, il y a cette autre phrase qui va exactement dans le même sens, et qui est celle-ci. Il existe des natures chez laquelle, si elles nous aiment, nous trouvons le sentiment d'une sorte de baptême et de consécration. Elles nous obligent à la rectitude et la pureté par leur pure croyance en nous. Nos péchés deviennent la pire espèce de sacrilège. Je trouve qu'il y a là une définition de l'amour qui n'a pas vraiment été explorée avant elle, et qui est très belle. C'est être la volonté d'être à la hauteur.
Oui, de ne pas décevoir.
De ne pas décevoir, et qui vous transcende, qui peuvent faire de vous un autre.
Quelqu'un de meilleur.
Oui.
Oui. Oui, il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de tout à fait profond dans la description de l'amour par Eliot, qui est aussi que le sentiment est une œuvre. Voilà. Parce qu'il y a à la fois chez elle le côté intempestif de l'amour qui surgit. Il y a ça, il y a le coup de foudre chez elle, ça existe. Mais ensuite, il y a la vigilance que chacun doit exercer sur ses sentiments. Et elle dit d'ailleurs, nous devons monter la garde autour de nos sentiments. Autrement dit, le sentiment n'est pas seulement quelque chose qui dit, qui révèle une passivité, mais qui appelle une activité, qui appelle une œuvre. Et c'est du reste la manière dont elle se sort de l'épineux problème du déterminisme et de la liberté. C'est qu'effectivement, nous sommes très largement déterminés, mais nous avons quand même la possibilité d'infléchir et de veiller sur nos sentiments. Il y a ça, quelque chose comme l'amour est une œuvre chez elle.
Oui. Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais que nous, avant de quitter Middlemarch, que nous revenions sur ce personnage qui m'a horrifié et fasciné en même temps. L'érudit que Dorothea, en proie à son roman, épouse, en dépit de toutes les mises en garde. Oui. Sa sœur Sir James, qui est amoureux d'elle, mais qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet homme ?» Il s'appelle Casaubon. Il est beaucoup plus vieux, il est déjà flétri, et c'est un érudit qui ne pense qu'à son travail, qu'à son œuvre. Et il est dit ceci, par exemple, « Le cocher avait l'habitude de mener ses chevaux gris à vive allure, car Monsieur Casaubon, impatient, ne prenait plaisir à rien de ce qui l'éloignait de son bureau. » Donc, il sacrifie tout à ce travail, et elle pense qu'elle va pouvoir l'aider, qu'elle va pouvoir effectivement être la secrétaire de Pascal. Le résultat est tout à fait différent. Il n'est même pas capable de l'aimer. Elle souffre énormément. Et elle souffre aussi d'une sorte de mépris qui s'insinue en elle parce qu'elle se dit finalement que son œuvre n'en vaut pas la peine. Il prétend découvrir la clé de toutes les mythologies. Il est déjà en retard sur les autres. Et on comprend à lire George Eliot qu'il en a obscurément conscience. Elle dit ceci, toute sa vie, Monsieur Casaubon s'était efforcé de ne pas reconnaître, même à part lui, les plaies internes ouvertes par le doute de soi et la jalousie. Il s'efforçait de ne pas les reconnaître, mais elles étaient là, ces plaies. Il souffrait, et j'ai lu dans votre livre, c'était extraordinaire, que quand on lui demande à George Eliot, qui lui a inspiré Casaubon, elle se frappe la poitrine. C'est comme si c'était sa propre inquiétude qu'elle avait aussi projetée en Casaubon. Et cette inquiétude, moi, je m'y suis retrouvé aussi. En tout cas, ce doute, mais qui est-on? Donc, si vous voulez, c'est un personnage atroce et en même temps tragique et pathétique. Parce qu'il y a moyen de s'identifier à lui.
Oui, bien sûr.
On a Ouzouf.
Elle souffrait beaucoup du regard porté sur son œuvre. Elle avait constamment besoin d'être rassurée. Et en ce sens, elle avait trouvé dans son compagnon l'homme qui était effectivement capable de la soutenir dans cette épreuve. Elle doutait beaucoup d'elle-même. C'était une personne à la fois, c'est ce qui fait d'ailleurs son caractère tellement attachant. C'est une personne fragile, anxieuse et audacieuse en même temps. Et qui quand même va jusqu'au bout de ses choix. C'est ça qui la rend tellement, tellement émouvante. Et par ailleurs, à ce personnage tout à fait détestable qui manque complètement d'empathie, elle accorde quand même de temps en temps un moment touchant. Et c'est très vrai, par exemple, de la lettre de demande en mariage qu'écrit Casaubon, qui est aussi correcte et aussi grise qu'une fiche documentaire, qui ne fait rien sentir d'un élan amoureux. Mais il y a un moment touchant dans cette lettre, il lui fait part, il lui dit qu'il est vieux, en effet, qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, mais que dans ce domaine, et il entend par là, quoi exactement? Est-ce qu'il entend une inexpérience sexuelle? Ou est-ce qu'il entend une inexpérience sentimentale? Il lui dit que dans ce domaine, il est jeune. Et là, il y a un moment touchant, parce qu'on sent que le vieil érudit est lui-même pris d'un soupçon. Alors fugitif, sans doute, mais il existe.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Mais il existe, malgré tout. Et donc, au vieil érudit sans charme, elle fait le cadeau charmant d'un moment presque émouvant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, il y a toujours ça chez elle, cette volonté d'équité.
Et de complexité.
Et oui, d'équité, de complexité, oui. Et de complicité aussi.
Et de complicité, oui. Et voilà d'ailleurs pourquoi ces personnages, son roman n'est jamais démonstratif. Ces personnages sont autre chose que des types ou des échantillons. Et on retrouve le special case célébré par Henry James. Nous reviendrons sur Henry James tout à l'heure. Mais justement, à propos du deuxième roman dont je voudrais que nous parlions maintenant, Daniel de Ronda. Je l'ai lu d'abord, j'ai été stupéfait par ce que j'ai lu. Je ne crois pas que ce soit un aussi grand roman que Middlemarch, parce qu'il y a en effet des faiblesses, des moments, je dirais pas à l'eau de rose, mais enfin moins forts que dans Middlemarch, il n'empêche. C'est un roman très surprenant. Est-ce que vous pouvez brièvement nous en résumer l'histoire, Mona Ozouf ?
Là, vous me demandez presque l'impossible. Justement, à cause des défauts ou des faiblesses du livre, c'est que les deux histoires sont... Il y a deux histoires en une.
Il y a deux histoires, voilà.
Et deux histoires qui sont, au fond, assez mal raccordées. Ou en tout cas, il faut une dose de bienveillance de la part du lecteur, de volonté d'entrer dans l'œuvre pour accepter le nombre d'invraisemblances auxquelles on est confronté d'un bout à l'autre. Mais bref, je vais essayer de résumer. Il s'agit au fond de l'histoire, le héros et le personnage central, c'est ce Daniel de Ronda, qui lui aussi est un personnage extraordinairement complexe, du reste en quête de son identité jusqu'au bout du livre. C'est un jeune aristocrate anglais, élevé dans une famille qui l'a recueilli, qui prend vaguement pour... Il prend vaguement l'homme de la famille pour son oncle, sans trop savoir si c'est vraiment son oncle, s'il est un fils naturel. Bref, il y a une sorte de secret autour de sa naissance. Et cet aristocrate anglais, bon, élevé dans les meilleures écoles, qui est d'ailleurs profondément attaché à la tradition culturelle anglaise, se transforme en juif sioniste avant la lettre.
Sioniste avant la lettre, oui.
Et partant pour la Palestine avec celle qu'il aime, parce qu'il est aussi, l'histoire est aussi l'histoire de cet homme entre deux femmes, l'une qu'il a rencontrée avant l'autre, qu'il a sauvé de la noyade dans les roseaux de la Tamise, et qu'il a donc immédiatement cette jeune femme juive, grelottante, au bord de la Tamise, l'a instituée en sauveur romantique, et cela, il ne pourra pas l'oublier. Et du coup, cette jeune juive persécutée va triompher de la beauté rayonnante, impérieuse, qu'il rencontre dans un casino où elle joue avec emportement, sûre de son éclat et de sa réussite, jusqu'au moment où elle rencontre le regard de ce jeune homme qui la juge, qui la juge tristement, qui ne consent pas à voir une beauté aussi fraîche se livrer à un jeu aussi vieux et aussi vil. Elle le comprend et du coup elle se met à perdre, elle perd tout ce qu'elle a. Rentrée à l'hôtel précipitamment, elle reçoit une lettre de sa famille lui annonçant la ruine de la famille. Elle doit vendre son collier de turquoise pour pouvoir rentrer en Angleterre. Le jeune homme la suit clandestinement dans ses pérégrinations, rachète le collier et au moment où elle quitte l'Allemagne, on lui remet ce collier de la part d'un inconnu, qu'elle identifie sans jamais pouvoir parler de ce cadeau qui est à la fois libérant mais qui est en même temps humiliant, qu'elle ressent comme humiliant. Donc c'est cet homme entre deux femmes et le triomphe de la première, c'est-à-dire celle qui l'a précédée dans l'histoire. Ce qui est aussi chez Eliot quelque chose de très fort, c'est que souvent les amours réussis ou les vies réussies ont leur origine dans un passé commun, lointain, dans une enfance commune, comme c'est le cas pour Fred et Marie dans Middlemarch.
Oui.
C'est très mal raconté.
Ah non, écoutez, mais... franchement, je suis absolument ébloui par le résumé que vous faites, parce que c'est un roman très difficile à raconter. Alors évidemment, ce qui est très surprenant, c'est cette empathie pour les Juifs.
Oui.
Et ce côté presque prémonitoire, puisque, en effet, c'est la déclaration Balfour avant la lettre, en
oui.
tout cas. Et il y a cette déclaration, d'abord, d'un des personnages, les Mordecai,
oui.
Les humiliés, les méprisés de notre race apprendront à voir leur terre sacrée, non comme un lieu où se pratique la mendicité sacrée en attendant la mort dans une oisiveté répugnante, mais comme une république où l'esprit juif se manifeste dans un ordre nouveau fondé sur la loi. Et Deronda qui dit ceci, l'idée qui m'habite, c'est de restaurer une forme de vie politique pour ceux qui appartiennent à mon peuple, d'en faire à nouveau une nation, de leur donner un foyer national, comme en ont les Anglais. On se dit, mais d'où ça lui est venu, si vous voulez, cette... Alors, j'ai trouvé peut-être une réponse en vous lisant Mona Ouzouf, parce que à la fin du chapitre consacré à Middlemarch, vous dites que elle était une conservatrice de progrès.
Oui.
Donc l'idée qu'elle développe là, c'est-à-dire c'est ce que Theodor Herzl a appelé Alt-Neuland, c'est-à-dire un commencement, une inauguration extraordinaire, mais fondée sur une très longue fidélité. C'est le vieux qui fabrique du neuf. Donc peut-être cette idée-là qui l'a fascinée elle-même. En tout cas, je ne m'attendais vraiment pas à ça sous la plume d'une romancière anglaise de l'époque victorienne.
Oui, d'autant plus que par tant d'aspects, elle est une adoratrice du progrès.
Oui.
Une évolutionniste... elle est persuadée que l'humanité, enfin comme c'est la foi du 19e siècle, que l'humanité s'achemine vers plus de bonheur et de progrès. Donc c'est très étrange. Alors ça vient d'où? Peut-être quand même de la tradition évangélique. Parce que dans la tradition évangélique, ce thème du retour à la Palestine existait. Ça vient aussi peut-être de sa familiarité avec Spinoza, de l'admiration pour Spinoza qu'elle traduit. Parce que ce que peut-être nous avons oublié, vous et moi, de dire, c'est que c'est non seulement une grande romancière, mais que c'est un grand esprit, frotté de lectures extraordinairement exigeantes. C'est quelqu'un qui traduit à 23 ans la vie de Jésus de David Strauss.
Voilà,
c'est quelqu'un qui se met en tête de traduire de latin en anglais l'éthique de Spinoza et le traité théologico-politique. C'est donc quelqu'un qui a une force conceptuelle énorme. Ce qui, du reste, je crois, permet aussi de franchir tous les passages supposés prêcheurs ou supposés didactiques où elle donne son avis. Où elle entre elle-même dans le roman. Mais ce qui permet de franchir ça, c'est aussi la qualité de sa réflexion.
Oui, absolument.
C'est qu'elle est les deux à la fois. Elle est un grand esprit conceptuel et une observatrice extraordinairement précise de la texture de la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai, mais elle peut être Elle peut être didactique, mais il y a aussi une sorte de polyphonie, parce que bon, le personnage de Deronda est le personnage positif, oui. Un homme habité par la compassion d'ailleurs. Il choisit entre deux compassions, oui. La compassion pour Myria, la femme qu'il sauve des eaux, et la compassion pour Gwendoline, personnage dont on va parler tout de suite.
Qui doit sauver d'autres choses.
Qui doit sauver d'autres choses. Mais ce Deronda, quand il découvre ses origines, on est amené à rencontrer sa mère. Sa mère l'a rejeté, pour lui faciliter l'existence, pour que, précisément qu'il ne soit pas juif, mais un gentleman anglais. Donc elle a confié à Sir Hugo, un baronnet, chargé d'en faire un gentleman. Il parle avec elle à Gênes, et vous faites une très très belle analyse de cette rencontre, parce que elle explique, elle explique cette trahison, et elle l'explique en termes admirables. Elle avait du génie, c'était une femme, alors une femme qui a du génie, c'est très compliqué, c'est une grande actrice et une grande cantatrice, mais surtout, elle ne voulait plus être juive parce qu'elle voulait être elle-même. Oui. Ça me fait penser à La Tâche, Coleman Silk, noire et qu'on pouvait prendre pour un blanc, parce que c'était, dit Philippe Roth, un pionnier du jeu. Il voulait être un individu, un pur individu. Et elle dit ceci, « On me forçait à ressentir du respect pour le petit bout de parchemin dans la mezouza sur la porte. » Craindre qu'un morceau de beurre ne touche un morceau de viande, trouver beau que les hommes attachent sur eux les téphilines, les phylactères, mais pas les femmes, adorer la sagesse de telles prescriptions, quand bien même elle me paraissait stupide. En fait, cette révolte contre une tradition au nom de, justement, la singularité qui l'habitait, et c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas la trahison odieuse de quelqu'un qui veut se fondre dans la masse parce qu'elle a peur de la mauvaise réputation des Juifs. C'est autre chose. Et c'est là dans le roman aussi, quand même. C'est magnifique.
C'est-à-dire qu'on a aussi de l'admiration.
Voilà.
Pour cette femme qui a privé son fils de son nom, déjà. Ce qui est quand même énorme. Mais là, je crois qu'on rencontre un thème qui est aussi très attachant chez Eliot. Il y a chez Eliot, dans toute son œuvre court, le respect pour les morts et le respect pour ce que les morts nous ont apporté, la gratitude pour l'héritage. Mais cette gratitude pour l'héritage et pour les morts ne va pas jusqu'à l'idée que les morts ont le droit de peser, oui, sur les vivants. C'est-à-dire que les vivants ont le droit de se désaffilier. Il y a des moments où les vivants peuvent revendiquer leur droit à exister hors de la tradition, alors qu'elle révère par ailleurs la tradition. Il y a cela. Les morts n'ont pas le droit d'immobiliser les vivants. Or, c'est ce que plaide la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alma Eberstein, oui, à la fin de Daniel Deronda. Elle explique à son fils que elle l'a confié à des mains généreuses, du reste, elle ne l'a pas abandonné sur un trottoir. Elle l'a confié à des mains généreuses pour le rendre lui-même plus heureux, mais pour elle aussi, pouvoir vivre sa vie, pouvoir, comment dire, donner satisfaction à son génie propre, à elle. Il y a les deux à la fois. Et,
oui,
et là, c'est quand même quelque chose qui est aussi une des ambivalences de tout le récit, de toutes ces histoires. Les personnages principaux sont presque tous des déshérités, mmh, ou des orphelins. Ce qui est tout à fait étrange pour une femme qui pense que l'être tient par toutes ses fibres à son passé.
Ça me fait penser aussi à ce qu'il dit de ce médecin Lydgate dans Middlemarch. Il était un de ces garçons exceptionnels chez qui se dessine de bonne heure un penchant précis et qui décide qu'il y a dans la vie une chose qu'ils aiment faire parce qu'elle le mérite et non parce que leur père le faisait déjà.
Voilà.
C'est toujours effectivement cette... Mais alors je voudrais qu'on
mais
dise...
C'est un... d'ailleurs, pardonnez-moi, non, mais juste un mot. Le pseudonyme, le choix du pseudonyme George Eliot... C'est la rupture avec l'ordre des pères. C'est exactement ce que fait Lydgate. Il rompt avec l'ordre des pères, elle aussi, en se rebaptisant George Eliot.
Oui. Et alors, elle a un mot sur ce personnage de Gwendoline, qui est l'enfant gâté. Cette femme, d'ailleurs, dont il est difficile, quand on lit le livre, de ne pas tomber amoureux, d'où la frustration de certains lecteurs. Pourquoi ne choisit-il pas Gwendoline? On voudrait qu'il se marie avec Gwendoline. On est là, on tambourine, on trépigne, etc. Et cette femme rencontre Grandcourt, un homme terrible, qu'elle épouse, qui est un véritable monstre, et qui lui gâche complètement l'existence. Et on pense effectivement à lire ce roman à Henry James et à Portrait de femme, hein, c'est-à-dire qu'il y a, oui, il y a une affinité, une influence, oui, peut-être. Le personnage d'Osmonde dans Portrait de femme.
Il y a une influence certaine, oui.
Oui. Et donc, mais justement, un mot sur James, parce que celui-ci connaissait George Eliot. Il était sévère avec elle, mais surtout, à un moment donné, il a cette phrase étrange. Il dit, mais il y a eu deux volumes dans Daniel de Ronda pour nous expliquer que
le héros ne tombe pas amoureux.
Voilà.
Il faut 8 volumes pour expliquer que le héros ne tombe pas amoureux de la belle personne du roman.
Alors là, j'étais quand même un peu sidéré, parce que combien de pages a-t-il fallu à Henry James pour nous expliquer dans Les Ambassadeurs que un homme envoyé d'Amérique en Angleterre pour ramener un jeune héritier engagé avec une femme mariée à Paris, pour le ramener dans le Massachusetts. Des pages et des pages, sa mission échoue, il tâtonne, il est lui-même changé, mais c'est très long. Alors, qu'il se plaigne des commentaires de George Eliot, alors qu'il est lui-même, si j'ose dire, mais je le dis avec une affection énorme, le plus prodigieux enculeur de mouche de toute l'histoire de la littérature, on est un peu surpris. Moi, c'est ce que j'aime chez lui, ce kaléidoscope dont vous parlez dans la Muse des démocratiques, ce kaléidoscope chatoyant, mais on trouve un peu la même chose, me semble-t-il, chez George Eliot.
Oui, mais je corrige un peu ce que vous avez dit, c'était un grand admirateur.
Ah oui.
Un grand admirateur d'Eliot, mais c'était un critique sourcilleux. D'ailleurs, il le dit lui-même à un moment, il dit, voilà, mon drame, c'est que je ne lis plus comme on lit à 10 ans. C'est-à-dire, je ne lis plus de façon innocente. Je lis en refaisant le roman selon mes propres exigences. Et au fond, je me demande si c'est pas une... si ça n'est pas, comment dire, se priver d'un accès à la littérature, de lire dans cette disposition d'esprit. Il le dit, il l'explique très bien. Je lis les romans en pensant à ce que moi, j'aurais pu en faire.
Alors, en même temps, sur Daniel de Ronda, son compte-rendu apparaît, vous en parlez dans votre livre, sous forme de conversation à 3 voix. Oui. 2 femmes et un homme, et l'une des 2 femmes, nommée Théodora, dit ceci de Gwendoline au début, et qui est très, très juste et très drôle: c'est une parfaite image de la jeunesse, youthfulness, son avidité, sa présomption, sa préoccupation d'elle-même, sa vanité, sa stupidité, its sense of its own absoluteness, son sens de sa propre absoluité, dirons-nous. Donc je trouve que c'est très bien vu. D'ailleurs, il y a souvent des remarques de ce type sur la jeunesse. Hein. La jeunesse incapable, justement, de se porter hors d'elle-même. Et c'est très juste pour Gwendoline. Et d'ailleurs, il y a quand même cette Théodora qui, tout au long de cette conversation, défend le roman contre l'une des 2... Poulcra, je crois, qui elle est Pulcheria, vaguement antisémite. Constantius qui essaye d'arbitrer entre les 3.
Qui est James lui-même.
James? Ah oui?
Vous n'avez pas lu ça comme ça?
C'est-à-dire que
James s'incarne dans le personnage de Constantius.
De Constantius, oui, c'est ça. Voilà. Pas dans celui de...
Non.
Absolument. James sûr. Et Constantius, mais enfin, il laisse parler d'autres voix, oui, et notamment cette Théodora qui aime énormément le roman et qui dit des choses très justes. Juste, donc il est quand même capable d'aller au-delà lui-même.
La brutalité de la jeunesse. La jeunesse est entière. Elle est tout entière dans elle-même, voilà. Et donc elle est brutale.
Et donc elle est brutale, oui. Absolument. Bon, ben je crois que nous en avons terminé de ce voyage. Il y aurait évidemment, je dois dire que d'autres œuvres sont abordées dans votre livre, Mona Ouzouf, notamment le moulin sur la flosse. Je crois que c'est ce roman-là qui avait la préférence de Proust, non?
C'est le roman qu'il avait certainement lu.
Ah voilà, c'est ça.
Quand il parle avec admiration d'Eliot, parce que c'est lié à l'enfance. Et donc, c'est celui qu'il avait en tête, certainement, en écrivant ces pages qui font pleurer.
Ah,
et de
ça.
Fait, c'est le roman le plus déchirant d'Eliot.
Ben oui, puisqu'il se termine sur la mort tragique des deux héros.
Sur la mort du frère et de la sœur.
Oui. Donc, vous en parlez, vous lui consacrez un chapitre, vous parlez aussi de Silas Marner, de Adam Bede, mais je suis resté concentré sur les deux romans Middlemarch et Daniel de Ronda, parce que je les avais lus, et donc je pouvais à la fois vous interroger et réfléchir avec vous. En tout cas, merci beaucoup Mona Ouzouf. Alors, je rappelle le titre de votre très très beau livre, L'autre Georges, à la rencontre de Georges Eliot. Cet ouvrage est publié aux éditions Gallimard. Et j'espère que nous avons aujourd'hui encouragé les auditeurs à se plonger dans l'œuvre d'Eliot. Alors je citerai de manière préférentielle, mais aussi cela vient de mon ignorance, George Eliot, Middlemarch. Mais vous dites vous-même que c'est votre livre de chevet.
Oui.
C'est
le plus riche.
C'est le plus riche, oui. Middlemarch, qui me semble admirablement traduit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé la traduction. Et puis aussi, donc, Daniel de Ronda. Ces deux ouvrages sont publiés aux éditions Folio, ainsi d'ailleurs que Le Moulin sur la Flosse et, je crois, Adam Bede et Silas Marner. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, merci encore. La semaine prochaine, le sujet que nous aborderons sera un peu scabreux et il a été rappelé à nous par l'actualité immédiate puisque l'émission s'intitulera De Gaulle, Pétain, la France et mes invités seront Paul Thibault et Éric Zemmour. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.